L'instant grec sur Hype FM.
Auditrices ou ses auditeurs, grecs, philhellènes et chypriotes, bienvenue à notre émission L'Instant Grec sur Hype FM 99.5 et internet radio-hypefm.com, la radio arménienne, que nous remercions pour l'accueil hebdomadaire. Nos émissions visent à promouvoir l'hellénisme dont la langue grecque en Île-de-France via la FM et à l'échelle nationale et internationale via internet et traite de thèmes culturels, sociétaux et d'actualité dans une ambiance musicale de circonstance. En cette mi-juin, nous serons très heureux d'écouter d'abord Madame Loretta Gaitis, fille du célèbre couple d'artistes grecs Yannis Gaitis et Gabriella Simosi, dans un dialogue qui nous transportera dans le musée qui leur est dédié dans les Cyclades, la charmante île d'Ios, comme un prélude à la saison estivale. Ce sera le 11e musée mis en lumière dans l'émission. Ensuite, nous serons en compagnie de M. Michel Volkovitch, écrivain, traducteur d'auteurs grecs contemporains, qui nous parlera de poésie avec le grand Yorgos Eferis, prix Nobel de littérature 1963, avec une musique de Mikis Theodorakis, à qui est dédicacée l'année 2025. Le nom de Michel Volkovitch est souvent mis à l'honneur dans l'émission, dans la rubrique de l'instant littéraire présentée par Nikos Grekos. Enfin, c'est avec joie que nous retrouverons Nitouche Anthousi, artiste chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne, à l'occasion de son exposition individuelle intitulée « Espèces d'hétérotopie, d'Ellis Island à New York, à l'île de Leros en Grèce », présentée en avant-première à la Fondation Hellénique de Paris et qui s'articule autour de la notion d'hétérotopie, un concept décrit par Michel Foucault pour désigner ces espaces autres, tangibles mais hors des cadres spatiaux ordinaires. Elle nous a proposé de décrire son exposition lors d'une précédente émission diffusé le 4 mai dernier. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, elle nous explique le concept de l'exposition. Ellis Island et l'île de Leros sont des symboles de passage, d'exil, d'enfermement et incarnent une tension universelle entre marginalisation et résistance. Avant de retrouver nos chers invités, M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs en chef des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Των Αγίων Πάντων σήμερα γιορτάζουμε όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα. Τους προπάτορες και πατριάρχες, τους προφήτες και ιερούς αποστόλους, τους μάρτυρες και τους ιεράρχες, τους ιερομάρτυρες και οσιομάρτυρες, τους όσιους και δίκαιους και όλες γενικά τις άγιες γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους αγίους. Σας σήμερα γεννήθηκαν σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Το 1390 ο Ιταλός ζωγράφος Παόλο Ουτσέλο, το 1594 ο Γάλλος ζωγράφος Νικολά Πούσεν, το 1843 ο Νορβηγός συνθέτης Έντβαρντ Γκρίγκ, το 1920 ο Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης Αλμπέρτο Σόρντι, το 1933 ο Ιταλός τραγουδιστής Σέρτζο Εντρίγκο, το 1943 ο Γάλλος τραγουδιστής Τζόνι Χαλιντέι και δύο Έλληνες, το 1849 ο συγγραφέας Ανδρέας Μαρτζόκης και το 1917 ο τραγουδιστής και συνθέτης Μιχάλης Γενίτσαρης. Όμως, ο νεοελληνικός θεατρικός πολιτισμός αυτές τις μέρες θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου θεατρανθρώπου, του ηθοποιού και σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου. Μαθητής του Κούν, ο Βασίλης Παπαβασιλείου σφράγισε ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και θεατρικός δάσκαλος στα θεατρικά μας δρόμενα τον τελευταίο μισό αιώνα. Άνθρωπος που συνδύαζε όσο λίγοι τη σκηνική πράξη και τον λόγο, ο Βασίλης Παπαβασιλείου υπήρξε προσφυλής δάσκαλος και καθοδηγητής για όλους όσοι είχαν το προνόμιο να δουλέψουν μαζί του. Πραγματοποιήθηκε η απόδοση των αποκατεστημένων προμαχώνων του κάστρου της Πάτρας, του νότιο-δυτικού ενετικού κυκλικού προμαχώνα και του νότιο-ανατολικού οθωμανικού πολυγονικού προμαχώνα. Κατά την τελετή της απόδοσης του μνημείου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι το κάστρο της Πάτρας αποτελεί αρχαιολογικό παλίμψιστο. Είναι η απεικόνιση της ιστορίας, της μνήμης και της πολιτιστικής συνέχειας της πατρίδας μας. Μέσα από την αποκατάσταση των δύο προμαχώνων αποδίδουμε ένα μνημείο υψηλής συμβολικής και ιστορικής αξίας που λειτουργεί ως το πόσιμο για την πόλη, ως πολιτιστικός πόλος αλλά και αναψυξιακός πόρος. Αξίζει πραγματικά μια περιήγηση στο κάστρο. Όταν ένας αρχαιολογικός χώρος αποδίδεται στον αστικό ιστό μιας μεγάλης πόλης, τότε η αξία του πολλαπλασιάζεται. Δεν είναι μόνο η μνήμη, είναι η καθημερινή ανάσα. Είναι υπεραξία για την πόλη. Πόλος έλξης για τον τουρισμό. Εργαλείο παιδείας και αυτογνωσίας. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
D'accueillir à présent Madame Loretta Gaitis, fille du célèbre couple d'artistes grecs Yannis Gaitis et Gabriella Simmossi, architecte et scénographe, et nous la remercions. Madame Loretta Gaitis, bonjour, kalimera sas.
Kalimera sas, ευχαριστώ πολύ.
Vos parents, enfants d'Athènes, ont fait carrière à Paris. Lui était d'abord un peintre, elle une sculptrice. Pouvez-vous nous parler d'eux?
Alors avec grand plaisir, ils se sont rencontrés tous les deux aux Beaux-Arts d'Athènes, où lui il était en section peinture et elle en sciences culture, donc très jeune. Et ils ont décidé, après donc leurs études et dans cette période difficile de la Grèce après la guerre civile, de partir pour la France et pour Paris, qui était une capitale très en effervescence. À cette époque-là, c'était la fin de l'école de Paris. Et enfin, tout se passait en France à cette époque-là. Donc en 54, ils sont partis juste avant. Ils se sont mariés à une petite église et ils sont partis à Paris où ils ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions difficiles parce que la Grèce était très pauvre. Donc ils ont dû travailler d'arrache-pied en France pour pouvoir petit à petit faire carrière, comme l'on dit. Et mon père y a vécu finalement 20 ans, on va dire de 54 à 74, où après la chute des colonels, il est reparti en Grèce. Donc là, il avait déjà mûri son petit bonhomme. Donc il est parti avec les prémices du petit bonhomme et il a intégré la Grèce, donc où il a vécu de 74 à 84, où il est mort, donc disons une dizaine d'années.
Oui.
Quant à ma mère, elle est arrivée aussi en France, donc lui, je suis née en 58 et elle a décidé, elle, de rester en France où elle est morte en 99, quelques années après mon père.
Oui. Voilà. Alors à présent, pouvez-vous vous présenter, Madame Loretta?
Alors, moi, je suis architecte de formation et spécialisée dans les musées en scénographie d'exposition. Qu'est-ce que c'est que la scénographie? Eh bien, c'est tous les aménagements des expositions temporaires que l'on voit quand on visite les grands musées ou les petits musées. C'est des expositions thématiques et le scénographe fait le trajet, fait la mise en scène, l'installation, les couleurs, participe aux lumières, enfin toutes ces choses-là et travaille avec des graphistes, des éclairagistes. Et j'ai fait 180 expositions dans les plus grands musées.
Oh là là, là, là. Extraordinaire! C'est fantastique ça. Alors justement, oui, on va venir petit à petit à parler du musée. Donc lorsque votre père Yannis Gaitis est décédé assez jeune, donc en 1984, vous avez choisi une île charmante dans les Cyclades, Ios, où vous avez fait construire une petite chapelle blanche à sa mémoire. Pouvez-vous nous retracer le chemin parcouru depuis la découverte de cette île par votre père jusqu'à l'inauguration du musée Gaitis Simmossi?
Alors écoutez, tous les deux étaient originaires des Cyclades. Mon père venait de l'île de Tinos, enfin pas lui puisqu'ils sont tous les deux nés à Athènes, mais son père à lui venait de l'île de Tinos. Et quant à ma mère, elle venait de par sa mère de Milos. et Syros un peu, et de Hevia du côté du père. Et pourtant, c'est Ios qui a été choisi par lui essentiellement et par eux deux. En 1962, Yanis est parti avec son ami Jean-Marie Drault pour interviewer, je crois, un peintre qui vivait à Ios dans un lieu un peu désertique. Et le Melten est venu et pendant 15 jours, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'un bateau qui passait par semaine, ils ont été obligés de rester 2 semaines. Ils se sont attachés l'un comme l'autre à cette île et Drault a pu financièrement tout de suite acquérir une maison, acquérir un terrain, et mon père a construit en 64 une magnifique maison pour Jean-Marie Drault. Et quand lui-même a pu avoir une plus grande aisance financière, il a acheté de l'autre côté de la petite baie, donc qui les sépare de 100 mètres, un terrain sur lequel il a construit sa maison sur 10 ans, donc de 74 à 84. Et donc, il l'a construit un peu comme une sculpture. Chaque été, il rajoutait une pièce, une arcade, une cheminée, enfin, vous voyez. Donc, ça, c'est pour la partie bâtiment et maison. Et ensuite, donc, quand il est mort, j'ai construit une petite chapelle tout à côté de la maison, à 3 mètres. Petite chapelle blanche, et j'y ai mis les ossements comme on fait traditionnellement en Grèce, puisqu'on fait on pratique la réduction des corps. Et lui, il a eu un enterrement que Mélina Mercouri a rendu au public, comme on dit, pour les citoyens qui avaient honoré leur police. Donc Yanis, ça fait partie de ces personnes. Et quelques années plus tard, quand ma mère est morte à son tour, j'y ai déposé son urne. Donc tous les deux reposent dans cette petite chapelle. Et puis, avec le temps, puisque vous m'avez parlé du musée, c'est ça ?
Oui, le fameux musée donc actuel Gaïtis Simosi.
Voilà. Alors, en fait, ce qui m'a paru évident, c'est que Yanis, surtout évidemment lui, Yanis Gaïtis, enfin mon père, était très très connu en Grèce et faisait partie de la culture grecque. Donc je me suis dit, il m'a laissé des œuvres. Je me suis mis en tête en me disant, ben, j'ai un devoir vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de mon pays, du sien, de donner des œuvres. Et comme je suis architecte, eh bien, j'ai contacté le maire de l'époque, qui a été enchanté de ce projet. Il a mis à la disposition un merveilleux site qui était anciennement le site où on mettait les poubelles, donc vous voyez, mais il était un peu loin du village, mais il est dans un lieu magique, puisque quand on est dans ce lieu, on est en hauteur et on voit et le village qui se dresse en premier plan, puis ensuite en contrebas on voit le port, et puis on voit Sikinos qui est une île très très proche, et puis un peu plus loin on voit Naxos Paros, et encore un peu plus loin, quand les temps sont favorables, on voit, je crois, Morgos, voilà, oui. Donc c'est en pleine mer Égée, et c'est un lieu, c'est un bâtiment que j'ai construit pour eux deux, avec 2 bâtiments principaux, une collection avec les œuvres de Gaïti sur 2 étages, et une aile dédiée à Simosi, avec les grands agrandissements qu'avait à l'époque le ministre de la Culture, Venizelos, agrandi. C'était des petits plats de 30 sur 30 centimètres, et il en a fait des sculptures de 2 sur 2. Donc sur des grands socles en marbre, au milieu, dans des arcades blanches, il y a ces 10 énormes sculptures, plus un ensemble d'une 40aine de collages sur papier, et quelques statues de la collection Jean-Marie Drault, justement, des années 62-68.
Oui, c'est vraiment un cadre idyllique, voilà, qu'il faut absolument visiter. Oui, voilà, ce musée actuel, donc magnifique, quand on voit les photos, mais il faut le voir de près. Oui, il a ouvert ses portes en 2024, voilà, et il y présente régulièrement des expositions à la fois temporaires et permanentes.
Alors écoutez, il a été inauguré en septembre dernier, en 2024, pour les 100 ans, en 1923, on était en 24, donc un siècle après. Oui. C'est un musée qui s'est réfléchi et construit sur 27 ans, tout de même, il faut le rappeler, parce que rien n'est simple quand même à réaliser. Et il a été inauguré par notre présidente de la République grecque, plus la ministre de la Culture, et puis évidemment tous les maires, les députés et tous les grands patrons des musées grecs qui étaient présents à l'inauguration avec des amis artistes. Donc c'était un très beau et puissant moment artistique.
Oh oui.
C'est un musée qui fonctionne d'avril, disons, à la fin octobre, correspond à la période touristique en Grèce. Si vous voulez, les Cyclades ne vivent pas 12 mois par an, mais plutôt 6. Donc on épouse ce rythme-là. Et à partir de l'année prochaine, il y aura bien évidemment, il y a une salle qui est libre et qui est dédiée aux expositions temporaires. Donc il y aura le but et l'objectif, et bien évidemment, d'avoir au moins une exposition temporaire par an à l'ouverture pour que les gens puissent et visiter cette nouvelle exposition temporaire et évidemment redécouvrir ou découvrir les collections permanentes du musée.
Voilà, et bien merci Merci beaucoup, Madame Loretta Gaitis, pour ces renseignements très précieux et très intéressants à la mémoire de vos parents. Et nous ne manquerons pas d'aller visiter ce musée de près dès que possible, comme on a dit dans ce cadre extraordinaire, idyllique. Merci beaucoup, Madame Loretta, et excellente continuation. Au revoir. Yassas.
Merci.
Michel Volkovitch, écrivain et traducteur français, spécialisé dans la traduction d'œuvres d'auteurs grecs contemporains. Il est principalement connu pour ses traductions des romans de l'écrivain Petros Markaris. Il est aussi le fondateur de la maison d'édition associative Le Miel des Anges, spécialisée dans la traduction en français d'œuvres de langue grecque, poésie, nouvelles et pièces de théâtre, et nous le remercions. Monsieur Michel Volkovitch, bonjour.
Kalimera.
Kalimera, Sas. Vous allez nous parler de poésie, n'est-ce pas?
Oui, je voudrais parler du poète Yorgos Seferis, que les Français appellent Georges Seferis, ce qui est un triste contresens. En effet, Seferis, prononcé comme ça, a une sonorité claire, lumineuse, alors qu'en grec, la teinte est plus sombre, Seferis. Il y a du bleu dedans, mais c'est un bleu gris. Et ce bleu gris, c'est la couleur de la vie de Seferis et de sa poésie. C'est une vie marquée par l'exil, puisqu'il a quitté son Asie mineure natale, espèce d'Éden perdu, à l'âge de 14 ans, il n'y est jamais retourné. Il a fait de longues études à Paris puis à Londres. Il était trilingue. Et puis il a mené une vie errante de diplomate qui l'a mené jusqu'en Afrique du Sud. Sa poésie, elle, est très méditerranéenne, bien sûr. Il y a là beaucoup de soleil, un soleil parfois aveuglant, mais il y a en même temps beaucoup d'amertume. Le vers de Seferis le plus connu, c'est « Partout dans mes voyages, la Grèce me fait mal ». Il souffre quand il est loin d'elle, c'est la nostalgie, et quand il est en Grèce, il souffre de tous les malheurs, de tous les maux de son pays. C'est l'un des plus grands poètes grecs de son siècle. Il a reçu le Nobel en 1963 et à sa mort en 71, il était devenu une espèce de poète national. Et ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'à présent, nous n'avions pas d'intégrale de ses poèmes en français, alors que Cavafis, lui, en a actuellement une bonne demi-douzaine. Nous avons, pour connaître Seferis quand on ne connaît pas le grec, essentiellement un volume de la collection Poésie Gallimard avec des traductions, de bonnes traductions de Jacques Lacarrière, Yves Bonnefoy, Laurent Gaspard, donc c'est du beau monde. Plus quelques éditions beaucoup plus partielles. Donc il y avait jusqu'à présent un vide béant qui vient d'être enfin rempli grâce à mes éditions du Miel des Anges. Venons de publier la première intégrale française des poèmes de Seferis sous le titre Les Poèmes et avec une couverture gris-bleu, bien sûr. Alors la grande nouveauté, la découverte de ce volume, c'est essentiellement le Seferis des débuts, ses deux premiers recueils, qui sont assez différents de ce qu'il va nous donner par la suite. Dans Strophi, par exemple, Tournant, son premier recueil, on voit un jeune poète fasciné par les poètes français de l'époque, Laforgue, Toulet, Valéry, et un Seferis qui écrit en vers classiques, ce qu'il fera rarement par la suite. Et je l'ai évidemment traduit de même. Car pour moi, traduire des vers réguliers en vers libres, ça confine à l'escroquerie. Je vais donner un exemple. C'est un poème qui est très connu parce que Theodorakis l'a mis en musique et les Grecs connaissent cette chanson par cœur. Alors, en français, ça donne le titre « Refus » à Arnissi. Sur le rivage de l'îlot, blanc comme la colombe, quelle soif à midi sans ombre, mais saumâtre était l'eau. Sur la blondeur du sable, un nom très cher avons tracé, mais il fut bientôt effacé par un vent bel et bon. Désir et passion partagés, quel souffle dans nos cœurs a conduit notre vie. Erreur, il a fallu changer.
Μουσική Μίκης Θεοδωράκης, τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικότσης, ποιήση Γιώργος Σεφέρης, Άρνηση.
Κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι μα τον ρογλυφό διψάσαμε τον ρογλυφό. Πάνω στην άμμο ξανθεί γράψαμε το όνομα της ωραία φύση ξεοπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με την πνοή τη πόθους και τη πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος. κι αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε.
Séphéris que nous connaissons, il apparaît en 1935 avec Mythistorima, que j'ai traduit tant bien que mal parce que c'est intraduisible par roman légende. Dans ses poèmes, le passé antique et le présent du poète, donc les années 30, les deux sont en résonance. Le second, c'est-à-dire le présent, est en retrait, en filigrane. Il est simplement deviné. On voit les péripéties des compagnons d'Ulysse, et il faut à travers elles deviner la Grèce des années 30. Alors ensuite, nous avons toute une série de recueils, pas si nombreux que ça d'ailleurs, Séphéris était assez sobre, il n'a pas énormément publié de poésie en tout cas. Il y a plusieurs recueils qui ont pour titre « Journal de bord ». Et c'est révélateur. Toute son œuvre, désormais, sera un journal. Pas du tout un journal intime. Séphéris est très pudique. C'est le journal de la Grèce et du monde qu'il vit et dont il se fait le chroniqueur. Un autre titre remarquable, Cahier d'exercice, qui montre l'humilité du poète. On pourrait voir dans toute son œuvre un récit d'apprentissage. Cet homme immensément cultivé pratique une poésie qui est une recherche, une écoute. Et ses maîtres, bah, il en a deux, et c'est frappant. Il y a d'une part T.S. Eliot, le poète anglais immensément cultivé et savant, et d'autre part le général Makrianis, ce héros de l'indépendance grecque, de la guerre d'indépendance, qui était illettré et qui a appris le grec pour écrire ses mémoires et qui écrivait un grec d'une simplicité totale. Je voudrais lire un deuxième extrait. Plus laissons parler le poète plutôt que son interprète. C'est un extrait d'un recueil qui date d'après-guerre, La Grive. C'est un dialogue, et il y a l'un des deux personnages, je prends un court extrait d'un poème assez développé, le personnage dit « Les statues sont au musée ». Et réponse « Non, elles te poursuivent. Comment ne le vois-tu pas ? Je veux dire, avec leurs membres brisés, avec leur forme ancienne que tu n'as jamais vue, et que tu connais pourtant, comme lorsqu'à la fin de ta jeunesse tu aimes une femme restée belle, et tu crains sans cesse, ayant tenu son corps nu à midi, la mémoire qui s'éveille dans tes bras. Tu crains que le baiser ne te trahisse dans d'autres lits désormais passés, mais qui pourraient hanter si aisément, et ressusciter des images dans le miroir, des corps qui furent jadis leur volupté. Comme quand de retour de l'étranger tu ouvres un vieux coffre fermé à clé depuis longtemps et trouves en loc les vêtements que tu portais dans de beaux moments, dans des fêtes aux lumières multicolores, dans les miroirs qui baissent peu à peu, ne laissant plus que le parfum de l'absence d'une jeune figure. La poésie de Séphéris a, je ne dirais pas un défaut, un inconvénient. Elle est très allusive, parfois difficile à comprendre, mais pas incompréhensible. Mais pour pleinement la comprendre, il est bon de connaître son contexte historique. Et pour cela, il y a une aide irremplaçable, c'est son journal. Le journal, qui est un ensemble imposant en plusieurs volumes, qui éclaire les poèmes. Le journal éclaire les poèmes, mais les poèmes en même temps éclairent le journal. Donc il est bon de les lire en parallèle. Et ce journal est en cours de publication en langue française. Le premier volume est paru, Journée 1925-1944, dans une excellente traduction de Gilles Ortlieb, aux excellentes éditions Le Bruit du Temps. Donc, maintenant, nous avons l'essentiel pour vraiment faire connaissance avec Séphéris. Les poèmes sont disponibles. Jusqu'à présent, notre Séphéris poète a été accueilli par un silence assourdissant de la critique française. Est-ce naturel ? On remarque qu'en Grèce même, le poète a été reconnu sur le tard à l'âge de 50 ans seulement. Donc, soyons optimistes, soyons patients.
Merci beaucoup, Michel Volkovitch, pour cette excellente présentation sur le grand poète grec, j'ai nommé Yorgos Séphéris. Merci beaucoup et excellente continuation. Au revoir.
Merci, au revoir.
C'est un plaisir maintenant de recevoir à nouveau dans notre émission Nitouche Anssouci, artiste chercheuse à l'Université de la Sorbonne, à l'occasion de son exposition intitulée « Espèces d'hétérotopie d'Ellis Island à l'île de Léros » et nous la remercions. Nous avons présenté cette exposition lors d'une émission précédente diffusée le 4 mai dernier. Aujourd'hui, Nitouche nous explique plus en détail le concept de l'exposition.
Nitouche Anssouci, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation.
Pouvez-vous nous préciser la notion d'hétérotopie et le concept du projet ?
Alors, ma création recherche est doctorale à l'Université Paris en Panthéon-Sorbonne est intitulée « Espèces d'hétérotopie ». Elle examine l'appropriation de l'espace en situation de confinement, qu'il s'agisse des asiles, des prisons, des camps de réfugiés ou du monde du métavers, sur les prismes de l'art et de l'expression artistique. Elle s'articule autour d'une étude comparative entre deux lieux emblématiques, Ellis Island, ancien lieu transitoire pour les immigrants aux États-Unis, et l'île de Léros, en Grèce, qui est marquée par l'architecture rationaliste des édifices musuliniennes. L'île a connu diverses réappropriations au XXe siècle, clinique psychiatrique ayant attiré Félix Guattari, puis camp des réfugiés en 2015. Ces lieux physiques résonnent avec le métavers, analysé comme une forme d'autoconfinement contemporain où chacun construit une hétérotopie à travers un avatar. Ce parallèle est réalisé pour la première fois dans une thèse de recherche et il révèle une dialectique entre présence et absence où les traces humaines incarnent une tension ontologique. Mes travaux se nourrissent d'une méthodologie interdisciplinaire mêlant philosophie, anthropologie et sociologie visuelle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, les mots hétérotopie viennent du grec hétéros et topos, ce qui, selon Michel Foucault, signifie des espaces autres, un lieu réel qui existe en dehors de tous les lieux, mais reste concret et efficace. En d'autres termes, c'est une utopie réalisée par la praxis, action. En utilisant le terme philosophique d'hétérotopie, je fais référence à la manière dont les individus vivant le confinement créent leur propre utopie réalisée, au moins pour une courte période. Cela peut être réalisé à travers l'art et la création artistique. En créant des œuvres d'art dans les limites, en utilisant des matériaux et des moyens minimums, détenus parviennent à survivre et à créer leur propre espace personnel. Un espace qui les fait se sentir plus familier dans un environnement fondamentalement inconnu et sombre qu'ils ne peuvent éviter de résider ou de traverser. Ils peuvent transmettre des messages, des résistances et devenir partie intégrante de l'histoire à travers leur nom, l'expérience, opinion, humour, tristesse, désespoir, colère et soutien mutuel et courage. Ils puissent force et bravoure pour surmonter des circonstances difficiles. Je me concentre sur les hétérotopies dans les zones fermées. En effet, il s'agit d'appropriation d'espace par les individus officiellement assignés à y rester, bien que ces espaces soient caractérisés par une interdiction ou une restriction de la liberté de mouvement. Alors, ces exemples englobe des zones telles que les asiles, des prisons, des cliniques psychiatriques. C'est particulièrement intéressant de la manière unique dont chaque personne construit une hétérotopie, même en l'absence de leur effet personnel, réussissant simplement par les corps, imposant leur présence dans l'espace par rapport au microcosme, est une société qui est une mise en abîme de notre société actuelle. Plus précisément, je compare de paradigmes majeurs, comme évoqué tout à l'heure, de l'hétérotopie sur les conditions carcérales entre Ellis Island à New York et l'île de Léros dans la partie sud-est de la mer Égée en Grèce. Quelqu'un se demanderait pourquoi comparer deux endroits si disparates à deux périodes différentes dans deux pays différents, continents, quand l'un est de vastes dimensions et l'autre n'est qu'un petit point sur la carte. L'un est un îlot dans le célèbre significatif New York. Pour être précis, il appartient autant à New York qu'à New Jersey. Et l'autre est une île isolée, éloignée, obscure, difficile d'accès, mais magnifique, qui a captivé les dirigeants internationaux par son intérêt géomorphologique, avec le deuxième port le plus profond de la Méditerranée après Malte. Ainsi, cette petite île de Léros a enduré de nombreuses occupations par l'Empire ottoman, l'Italie de Mussolini, les Allemands, les Britanniques et donc, avec toutes leurs forteresses, casernes et bases navales, jusqu'à ce qu'elles soient réintégrées dans l'État grec de l'époque où, en 1949, elle a été utilisée par la famille royale, centre de réhabilitation pour les enfants de famille de gauche, connue sur les noms des écoles techniques royales de Léros. Par la suite, un hôpital psychiatrique a été établi, servant toute la Grèce, et pendant la dictature des colonels, il a été un lieu d'exil pour les prisonniers politiques. Et puis, de 2015, c'était un hotspot de Frontex pour les réfugiés. Les réfugiés et les migrants ont été exilés sur l'île de Léros d'une manière ou d'autre pendant longtemps. Et d'un autre côté, l'Ellis Island, située au large des côtes de New York et de New Jersey, et dans le baie supérieure, a connu une évolution significative au cours de son histoire, passant d'une terre connue sur les noms de Gull Island, Oyster Island, puis Gibbet Island, après qu'un pirate y a été exécuté là-bas. À la fin de la période coloniale, elle appartenait à Samuel Ellis, dont elle conserve le nom Ellis Island. Achetée d'héritier Ellis par l'État de New York et remise au gouvernement fédéral, elle est restée propriété fédérale par la suite. Initialement, un site de fins militaires comprenant le Fort Gibson, il est devenu un centre de réception des migrants. La station a été détruite par le feu et en 1897, effaçant de nombreux enregistrements précieux et créant un vide significatif dans l'histoire des migrations. En effet, ces deux liens sont similaires symboliquement et idéologiquement. Quelles sont les similitudes? L'hôpital, la clinique psychiatrique, les casernes, les centres de réception des migrants et des réfugiés, l'exil, l'emprisonnement, etc. Comme Ellis Island était l'entrée emblématique pour les immigrants vers les États-Unis, le langage peut être très utile. Et en étudiant les archives, j'ai eu accès pour les photographier et pour créer de modélisations en 3D à travers la technique de photogrammétrie.
Merci beaucoup, Nitouche Ansoussi, pour ces éléments très très intéressants que nous avons appris parce qu'ils sont peu ou pas connus concernant donc les deux îles Ellis Island situées à New York aux USA et puis l'île de Léros en Grèce. Excellente continuation. Au revoir.
Je vous remercie infiniment pour cet accueil et cette invitation. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices et auditeurs, grecs, philhellènes et chypriotes, l'émission L'Instant Grec sur IPFM 99.5 touche à sa fin. Toutes nos émissions diffusées depuis plus de 8 ans et demi sont disponibles sur notre site radio-ipfm.com, rubrique programme, dossier L'Instant Grec en archive. Merci de votre aimable attention à nos précieux invités, à nos annonceurs et à la radio arménienne. Tous les Grecs de Grèce et de la diaspora, tous les philhellènes et chypriotes, exprimons par les ondes de l'émission grecque notre solidarité avec le peuple d'Arménie et du Haut-Karabakh, chassés par la force de leurs terres ancestrales et impuissants face à la destruction de leur patrimoine séculaire. La semaine prochaine, outre l'actualité, nous présenterons le 12e musée mis en lumière dans l'émission, celui de la culture grecque moderne d'Athènes. Et nous partirons également en Grèce du Nord en Thrace, en découvrant la population particulière des Pomaques. Nous avons à de nombreuses reprises invité le nouvel ambassadeur de Grèce en France, son Excellence Monsieur Andonis Alexandridis, ainsi que nous l'avions fait pour son prédécesseur, à venir s'exprimer dans notre émission sur quelques sujets importants. Il n'a pas donné suite à notre demande et refuse de nous recevoir. De même, d'autres individus veulent saboter les émissions depuis longtemps.
Προσκαλέσαμε πολλές φορές τον νέο πρέσβη, τον αξιότιμο κύριο Αντώνη Αλεξανδρίδη, όπως κάναμε με τον προκάτοχό του, να έρθει να μιλήσει στην εκπομπή μας για κάποια σπουδαία θέματα. Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και αρνείται να συναντηθεί μαζί μας. Passez un excellent dimanche, une bonne semaine. Au revoir. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Vous écoutez Hype FM 99.5.
Ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
Et si je devenais assistant parlementaire ?
Aujourd'hui, j'ai créé mon agence de publicité.
Chez Media School, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
Kiraki, Hunisit Asne Hingin, Jamat Asne Yotin, Alforvili Pol Culturel Hamergaserahum, Fransa Haeri Miutuna Hachuikov, Raviru Mezes Masnakselu Pararvesti Batsarik Metz Hamergi, Voregazma Kerfume Yerkun Shanavor, Pari Varpetneri, Aram Arzumanyani Hisun Amyaki, Yev Armen Chiloyani Hisun Hing Amyaki Patvik. Այս բացառիկ երեկոյին իրենց տաղանդով եւ ուրույն ձեռագրով հանդես կգան հայտնի պարախմբերը՝ Արարատ, Նավասարդ, Աստղիկ եւ Մսեա, միավորելով արվեստը, մշակույթը եւ նվիրվածությունը, ձեզ համար ստեղծելով անմոռանալի զգացումներ եւ հույզեր։ Տոմսերի եւ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 06 95 14 77 67 հեռախոսահամարով կամ գրել union.fr@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։ Dimanche 15 juin à 17h, l'Union franco-arménienne a le grand plaisir de vous inviter à un spectacle exceptionnel de danse organisé en l'honneur de deux grands maîtres de l'art chorégraphique, Aram Arzumanyan qui fête ses 50 ans et Armen Chiloyan qui fête ses 55 ans. Lors de cette soirée unique au pôle culturel d'Alfortville, les célèbres troupes de danse Ararat, Navasart, Astrik et MCA se produiront alliant art, culture et dévouement pour vous transmettre des émotions et des souvenirs inoubliables. Pour toute information et réservation, contactez-nous au 06 95 14 77 67 ou en écrivant à l'adresse union.fr@gmail.com. Venez vibrer avec nous dimanche 15 juin à 17h au pôle culturel d'Alfortville.
L'occasion du 70e anniversaire de la colonie de Bellefontaine, le week-end du 12 et 13 juillet 2025, la Croix-Bleue des Armiens de France vous réserve une surprise exceptionnelle. Participez à la grande tombola anniversaire. Tentez votre chance et remportez un voyage d'une valeur de 2500 euros à destination de votre choix. Au soleil, à la montagne, à l'aventure, c'est vous qui décidez. Alors, prêt à embarquer pour le voyage de vos rêves? Les billets sont en vente dès maintenant auprès de nos sections. Tirage au sort le dimanche 13 juillet 2024 lors de la grande fête de la colonie. Ne manquez pas votre chance! La Croix Bleue des Armiens de France, Joroutin Head, Joroutin Hamal.
Hype FM à votre service. Pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, Hype FM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90 ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.
Samedi 28 juin à 16h, Gabuit Denac vous invite à sa fête annuelle de fin d'année, Hantes, à la Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e. Spectacle, buffet, jeux vous attendent. Venez en famille.
IBFM, le journal Harout Martirosyan.
Bonjour, vous suivez le journal de IBFM, merci de m'accueillir chez vous. La guerre ouverte est déclarée entre Israël et l'Iran. On s'y attendait depuis plusieurs mois, nous avions dit à plusieurs reprises dans nos antennes et dans nos cartes sur table qu'après Gaza, la Syrie et le Liban, la prochaine cible serait l'Iran, et depuis jeudi soir, c'est le cas. L'armée israélienne a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une série de frappes d'envergure contre des sites militaires et nucléaires iraniens dans tout le pays, provoquant une onde de choc géopolitique dans toute la région et au-delà. Cette opération, baptisée Lion Ascendant, a été confirmée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a justifié ces attaques par la nécessité de répondre à une menace existentielle pesant sur l'État hébreu, lequel continue simultanément de bombarder les populations civiles dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, les frappes visaient des infrastructures nucléaires et des centres de commandement militaires en Iran. De puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de Téhéran dans la nuit, tandis que la télévision d'État iranienne a évoqué des frappes ayant touché des zones résidentielles. Selon des sources iraniennes, le bilan serait de 78 personnes tuées et 329 blessées. Mais selon plusieurs sources occidentales, on parle de plusieurs centaines de civils morts. Parmi les personnes décédées, on trouvait Hossein Salami, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, et Mohamed Bagheri, chef d'état-major des armées iraniennes, mais aussi plusieurs scientifiques impliqués dans le programme nucléaire iranien. Immédiatement, une première riposte iranienne a eu lieu, mais c'est surtout hier soir qu'une riposte sévère a eu lieu sur Tel Aviv et plusieurs villes israéliennes, qui a contraint tous les civils de gagner les abris. À ce stade, le bilan n'a pas été communiqué, mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que Israël ira jusqu'au bout et a promis de nouvelles attaques sur l'Iran dans les heures à venir, dans ce qui constitue sans doute un embrasement du Moyen-Orient, terrible pour les communautés arméniennes d'Iran et d'Israël, mais aussi de Syrie et du Liban, et au-delà de l'Arménie. L'attaque unilatérale contre l'Iran est profondément préoccupante, a ainsi déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères. Survenant après le cycle de négociations, elle met en péril les efforts de paix, ainsi que la stabilité régionale et la paix mondiale. Nous condamnons de tels actes et appelons à la cessation immédiate des hostilités et au respect du droit international, indique le ministre arménien des Affaires étrangères Arlat Mirzoyan, depuis Marseille, où il participe à un forum international. Même son de cloche du premier ministre arménien Nikol Pachinian depuis Prague, où il participe lui aussi à un autre forum. Nous exprimons notre inquiétude et condamnons les récentes actions d'Israël contre l'Iran. Elles remettent en question la stabilité fragile de la région et nous sommes très préoccupés, a souligné M. Pachinian. Le commentaire le plus dur est venu du secrétaire du Conseil de sécurité nationale arménien, Armen Grigorian, qui a considéré que l'attaque d'Israël contre l'Iran constitue une atteinte à son intégrité territoriale qui aura un impact négatif sur la région. Première conséquence, plusieurs vols à destination et en provenance d'Arménie ont été annulés le 13 juin en raison de la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'espace aérien iranien. Plusieurs dizaines d'autres vols internationaux ont dû atterrir en urgence à l'aéroport international de Zvartnots ou dans d'autres aéroports de la région dont celui de Bakou. En raison de cette situation, des citoyens arméniens et des ressortissants d'autres pays mais d'origine arménienne sont toujours bloqués à l'aéroport de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et on imagine le dramatique de leur situation. Parallèlement, des citoyens azerbaïdjanais se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Zvartnots, mais eux ont été pris en charge par les autorités arméniennes. Les autorités arméniennes, mais aussi l'ANCA, l'équivalent du CDCA aux États-Unis, qui a mis en garde sur le fait que l'Azerbaïdjan puisse en profiter pour attaquer l'Arménie, pour prendre le Syunik et établir la continuité territoriale avec le Nakhitchevan. D'ailleurs, comme juste avant le lancement de la guerre des 44 jours, des manœuvres conjointes turco-azerbaïdjanaises ont depuis deux jours démarré dans le Nakhitchevan, ce qui est aussi un moyen de stocker du matériel militaire et de préparer les troupes. Une hypothèse à laquelle s'est refusé Nikol Pachinian, toujours depuis Prague, indiquant comme il le fait depuis plusieurs semaines, sans que rien ne vienne le seconder du côté de l'Azerbaïdjan, que la conclusion du traité de paix garantit la sécurité de l'armée. Nikol Pachinian, lui, n'est ni en guerre contre l'Azerbaïdjan, ni contre l'Iran, mais contre l'Église arménienne et son catholicos Karekin II. Hier, il a une nouvelle fois demandé la démission du chef suprême de l'Église arménienne. Rappelons que le premier ministre arménien accuse Karekin II d'avoir rompu son vœu de célibat et d'avoir un enfant caché, et ce, sans jamais fournir la moindre preuve de ses accusations. Il s'était par ailleurs engagé à mettre sur pied une commission qui serait chargée de destituer le catholicos et de placer à la tête de l'Église un prélat qui en serait selon lui le plus digne et en lui donnant tous les biens des Chmiadzin. Les leaders de l'opposition arménienne ont condamné cette initiative qu'ils jugent illégale. Ils n'ont pas non plus manqué de souligner la coïncidence entre cette offensive lancée par le Premier ministre contre l'Église et la participation du catholicos à un forum international dédié au patrimoine arménien menacé du Karabakh, qui se tenait fin mai en Suisse où le catholicos n'avait pas ménagé l'Azerbaïdjan, contrairement aux autorités politiques arméniennes. Celle-ci chercherait, selon l'opposition, à complaire à l'Azerbaïdjan, dont la plus haute autorité religieuse, le cheikh Oulislam Alashukur Pashasadeh, vient de réitérer ses critiques à l'encontre de l'Église arménienne, qu'il accuse d'être une menace pour la paix dans la région. Karekin II, qui tout au long de la semaine a reçu de nombreux soutiens. Un soutien populaire d'abord à son retour mercredi d'un déplacement aux Émirats Arabes Unis, où plusieurs milliers de personnes et la plupart des dirigeants de l'opposition sont venus l'accueillir à l'aéroport. Karekin II, qui a reçu aussi le soutien du catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie, du Bureau Mondial de la FRATA Cheng Soutoun, du CCAF en France, mais aussi des anciens présidents de la République, Levon Terpétrosian, Robert Kocharian et Serge Sarkissian. Levon Terpétrosian, qui avait rencontré Karekin II en début de semaine, et avait fermement condamné les ingérences inconstitutionnelles de Pachinian, ce qui avait provoqué l'hystérie du Premier ministre, qui l'avait accusé d'être le fondateur de la fraude électorale et de la corruption systémique en Arménie. Réplique jeudi de Levon Terpétrosian, qui compare la campagne actuelle orchestrée par Pachinian contre l'Église à la politique répressive qu'avait menée la Russie tsariste contre l'Église arménienne apostolique. Au début du XXe siècle, plus précisément en 1903, l'empereur de Russie Nicolas II avait fait passer une loi visant à confisquer les biens de l'Église arménienne et à fermer les écoles arméniennes. Cela avait provoqué une telle vague de protestations et de révoltes dans toutes les sphères du peuple arménien, renforçant spontanément le développement du nationalisme arménien, que l'empereur avait été contraint de retirer la loi en 1905. Si le peuple arménien avait pu avoir raison du tout-puissant empereur russe, pourquoi ne pourrait-il pas vaincre un traître à la nation, un blasphémateur tel que Nicole, a conclu Terpétrosian. Clairement, la rupture est prononcée entre Nicole Pachinian et son ancien mentor, dont il avait mené la campagne en 2008, n'hésitant pas à faire scander son nom par la foule. On aura aussi noté le peu de soutien qu'aura recueilli Nicole Pachinian, y compris dans ses propres rangs, hormis sa compagne, Anna Agopian, qui n'a cessé, elle aussi, durant toute la semaine, de lancer des insultes contre l'Église et contre le catholicos. Le projet de loi sur la réduction de la durée du service militaire obligatoire en échange d'argent, présenté par Alex Sarkissian, député du groupe Contrat Civil, a été rejeté par la Commission permanente de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale arménienne, et c'est une surprise de taille, et pour le moment inédite, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachinian. 6 voix étaient nécessaires pour adopter le texte, mais seuls 5 membres du comité ont voté pour, les autres contre, et un seul s'est abstenu. On se souvient que ce projet de loi présenté par Alex Sarkissian proposait d'établir un certain nombre d'options pour le service militaire obligatoire pour différentes périodes et la possibilité d'effectuer un paiement approprié. Par exemple, 1 mois de service contre 24 millions de trams, 4 mois de service contre 18 millions de trams. Le texte prévoyait aussi une forme d'amnistie contre 15 millions de trams pour les citoyens masculins qui étaient partis à l'étranger. Le projet prévoyait également une révision des mécanismes d'exemption du service militaire pour raisons de santé, notamment la possibilité d'effectuer le service militaire avec certaines restrictions pour être sur le terrain. C'est un revers important pour Alex Sarkissian, qui avait rappelé que le projet avait été discuté pendant environ 1 an, notamment sous la direction du Premier ministre Nicole Pachinian, avec la participation du ministre de la Défense et d'autres ministères. Selon Sarkissian, le projet a été soumis au Premier ministre en janvier 2024, sur la base duquel une commission interministérielle a été créée, et ce n'est qu'après consensus qu'il a été mis en circulation. Le vice-ministre de la Défense était venu présenter le projet de loi devant la Commission, avait lui mis en avant que le projet de loi vise à établir la justice, car actuellement de nombreuses personnes évitent le service par la corruption et le renoncement à la citoyenneté. Selon lui, 69% des citoyens soumis au service militaire obligatoire ne servent pas dans les rangs de l'armée. 80 à 82% le font pour des raisons de santé, 4% ne se présentent pas au service militaire et plus de 2000 personnes renoncent chaque année à leur citoyenneté arménienne en quittant le pays. Mais les arguments de l'opposition semblent avoir emporté. Anna Grégorian, députée du groupe parlementaire Ayastan, a vivement critiqué le projet de loi, le qualifiant d'inconstitutionnel, car créant une inégalité de citoyens devant la loi. Si la loi stipule que certains citoyens peuvent servir uniquement 1 à 4 mois en payant une somme importante et que d'autres devraient faire 24 mois sans pouvoir payer en raison de leur situation sociale vulnérable, il y a alors discrimination. Cette discrimination ne découle pas du libellé de la loi, mais des conséquences pratiques. Ce faisant, nous créons une différence sociale fondée sur le service militaire, ce qui est déjà inconstitutionnel, a noté Grégorian. L'argument qui a fait mouche est venu de Kera Manoukian, toujours du groupe Ayastan et de la FRA Tachin Ksoutioun, qui a mis en garde les députés de la majorité sur le fait que si la loi est mise en place et qu'un citoyen est contraint de faire son service de 24 mois parce qu'il ne peut pas payer, alors il n'aura qu'à déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel qui tranchera en sa faveur car la Constitution est claire sur l'égalité des citoyens et qui l'exemptera de son service militaire, ouvrant la voie à tous les jeunes de ne plus servir dans l'armée alors que la menace extérieure n'a pas disparu. Sans doute que cette faille juridique qui n'avait pas été vue a provoqué le rejet du texte qui devra être retravaillé avant d'être de nouveau présenté en commission pour pouvoir être inscrit à l'ordre du jour. Fin de ce journal, qui, compte tenu de l'actualité, n'est pas le journal de la semaine que vous attendiez, mais bien celui du jour.
IPFM, c'est aussi 24 heures sur 24 sur la RNT.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est la radio numérique terrestre.
C'est comme la TNT, mais pour la radio ?
Exactement, il suffit juste d'avoir un récepteur compatible DAB et vous aurez toute la journée IPFM dans votre poste à Paris, Marseille et Nice.
C'est chouette !